Chapitre 12. Varennes ou la folle équipée. Tout a été préparé dans le plus grand secret. Depuis l'interdiction faite à sa famille d'aller passer à Saint-Cloud les fêtes de Pâques 1791, Louis XVI a fini par se résoudre à mettre de la distance entre l'Assemblée constituante et sa personne, et a gagné la Lorraine pour y rejoindre les troupes du marquis de Bouillé, commandant des armées de l'Est. Lui-même a fixé le départ pour la nuit du 20 au 21 juin. Ce n'est pas pour l'époque un petit voyage. 70 lieues depuis Paris, 286 de nos kilomètres, soit une quinzaine d'heures de route au bas mot. Le jeune duc de Choiseul, neveu du grand ministre de Louis XV, artisan du rapprochement avec l'Autriche et concepteur du plan, a prévu que l'on suive la direction de Metz jusqu'à Clermont en Argonne, avec un relais pour les chevaux tous les 20 kilomètres. Après quoi, on bifurquera pour emprunter jusqu'à Montmédy un chemin passant par Dun-sur-Meuse et Stenay, mais cette fois sans relais de poste. Les chevaux devront être fournis par l'armée du fidèle Bouillé. Or, c'est le bourg de Varennes qui marque la limite au-delà de laquelle les chevaux de poste devront être remplacés par ceux de l'armée. Ce 20 juin, donc, à la tombée de la nuit, il convient de quitter les Tuileries. Pour n'attirer aucun soupçon, Louis XVI sacrifie à l'habituelle cérémonie du coucher, mais, sitôt seul, il se relève et, revêtant une perruque rousse et un habit de simple bourgeois, il se dirige à pas de loup dans la nuit vers le petit carrousel, point fixé pour le rendez-vous. Une heure plus tôt, la marquise de Tourzel a réveillé Madame Royale et son jeune frère, les a déguisés en deux petites filles sous prétexte d'un jeu, et les a conduits jusqu'à une voiture de louage, une citadine, où ils ont retrouvé le fameux comte de Fersen, direction le petit carrousel. Là, pendant plus d'une heure, ils ont attendu que Madame Élisabeth, puis le roi, son frère, les rejoignent. Marie-Antoinette, s'étant perdue, arrive la dernière, en retard. La famille réunie, la citadine gagne la porte Saint-Martin, où attend une grosse berline de voyage, de couleur verte avec les essieux jaunes. Se présentent trois gardes du corps, Malden et Moustier, qui grimpent sur la banquette extérieure avec Fersen, et Valory, qui chevauchera en avant et fera préparer les relais. L'opération accuse déjà près d'une heure de retard sur le plan initial, or chaque minute compte. Au relais de Bondy, Fersen fait comme prévu ses adieux à la famille royale. Au deuxième relais, à Clay, l'équipage retrouve deux femmes de chambre parties en avance à bord d'un simple cabriolet. 2 heures de retard à présent, c'est beaucoup. Et cependant, alors que le soleil fait rougeoyer la campagne, Paris s'éloigne. Dans la grosse voiture, les fugitifs se détendent un peu. Le roi est de belle humeur. On a dépassé Meaux avant 8 heures, juste au moment où aux Tuileries éclate la nouvelle. Le roi s'est enfui. À la tête de la garde nationale, le marquis de Lafayette se doit de prendre au plus vite des mesures radicales. 10 écuyers sont envoyés dans toutes les directions possibles. C'est donc le hasard qui met un certain Bayon sur le bon itinéraire. Lui galope sans le savoir sur les traces des fugitifs, propageant à chaque relais qu'il traverse la nouvelle de la fuite royale. Il est à peu près midi lorsqu'un maraîcher de Clay reconnaît avoir trouvé suspect une grosse berline et un cabriolet qui roulaient trop bon train aux environs de 3 heures du matin. Sa déposition recoupe celle du jeune cocher qui a conduit jusqu'à Clay la petite voiture des femmes de chambre. On admet donc à Paris que c'est la route de Verdun qu'il faut inspecter. Un peu après 1 heure, Lafayette jette donc sur cet itinéraire un de ses officiers muni d'un décret de l'Assemblée ordonnant l'arrestation de tous les individus de la famille royale voulant sortir du royaume. Où en est à ce moment précis la berline vert et jaune ? K1, K.A., elle gagne Châlons en Champagne, avec toujours plus de retard. Les fugitifs accusent à présent 3 heures de décalage sur l'horaire. Leur lourd convoi n'a plus que 6 petites heures d'avance sur ses poursuivants à cheval, mais, selon le plan, le roi et les siens doivent retrouver une première escorte armée à Sommevelle. Il est 5h30 de l'après-midi quand le garde du corps Valory, qui continue d'avancer en éclaireur, se présente au point de rendez-vous, tout heureux, à l'idée de rejoindre enfin Choiseul et ses 40 hussards. Hélas, il ne voit personne au rendez-vous prévu. Comment expliquer ce manquement? Bien très simplement, après avoir attendu 3 heures, Choiseul a supposé que le plan avait échoué et que la fuite du roi avait dû être remise. Alors il a donné l'ordre de lever le camp. Pis encore, il a mené cette retraite par un chemin de traverse, allant jusqu'à se perdre dans une campagne qu'il connaît fort mal. Sans cette ultime bévue, Valory aurait eu une chance de le rattraper. À quoi tient parfois l'histoire ? Circonstance aggravante pour le jeune Choiseul, étant accompagné du fameux Léonard, le coiffeur attitré de la reine, il a chargé ce dernier d'aller prévenir les détachements suivants du contre-ordre, liquidant tout secours militaire sur le parcours de la berline. Ce sont ainsi quelques 175 dragons qui vont se volatiliser. Aussi, lorsque Louis XVI et sa famille parviennent à Sommevel, à Sainte-Ménéhoux, à Clermont en Argonne, ne trouvent-ils aucune des troupes prévues. Dans la voiture, la surprise, le dispute à l'angoisse. Pour autant, le roi fait preuve de détermination, trouvant partout des chevaux de poste, il continue sa route sans sourciller et comme prévu, à Clermont en Argonne, il bifurque vers le nord, en direction de Varennes. Plus de relais désormais. La progression de la berline est à la merci des chevaux de l'armée. Or, le temps presse. Aux trousses des fugitifs, 2 cavaliers sont lancés maintenant au galop. Bayon, très motivé car bon républicain, mais sans certitude quant à l'itinéraire, et l'officier Romeuf, moins acharné sans doute, mais guidé quant à lui par des renseignements précis. Ces 2 chevaucheurs se croisent au relais de Chintry avant Châlons-en-Champagne et décident de continuer ensemble. Auparavant, Bayon a fait prévenir le chef du relais suivant, celui de Châlons, lui demandant de propager la nouvelle de la fuite du roi sur toute la route de Verdun. La distance protégeant les fugitifs rétrécit comme peau de chagrin. Quand la nouvelle de Paris atteint Sainte-Ménéhoux, la berline royale en est repartie depuis moins d'une heure. La municipalité réagit en envoyant à sa poursuite le dénommé Drouet, chef de relais. La légende veut que ce révolutionnaire acharné, selon Madame de Tourzel, ait reconnu Louis XVI lors de son passage une heure plus tôt grâce à l'effigie du souverain sur une pièce de monnaie. Impossible ! Drouet était dans les champs lors du passage de la berline. Mais ce qui est certain, c'est que sur sa route, il croise 2 de ses employés, affairés à reconduire les chevaux de la berline fraîchement dételés à Clermont. Ce sont eux qui lui apprennent la bifurcation vers le nord du convoi fugitif, en direction de Varennes. Immédiatement, Drouet attrape un raccourci menant droit à ce village. À 11h du soir, cela fait plus de 24 heures que tout a commencé. La famille royale, ballottée sur les routes de Lorraine sans la moindre escorte, est maintenant la proie des pires angoisses. Le roi sait qu'on est forcément à ses trousses. Il se doute qu'on va finir par le rattraper. La berline et le cabriolet sont en train de pénétrer dans le bourg endormi de Varennes. Ici, la nouvelle n'est pas encore arrivée et pour cause, les messagers progressent dans une autre direction sur la route de Verdun. L'éclaireur Valory, arrivé depuis 3 quarts d'heure, a désespérément cherché les chevaux promis par le marquis de Bouillé. Le roi descend de voiture, tendu. Il s'entretient avec les gardes du corps, s'enhardit même à frapper au volet de la première maison, sans succès. Il était prévu que les chevaux de Bouillé attendraient la berline à l'entrée de la ville haute. Mais par une précaution de dernière heure, l'officier de cavalerie a eu l'idée de les dissimuler un peu plus loin, dans les communs d'une auberge de la ville basse. Comment le deviner ? Les troupes, elles, font défaut, comme partout. Le destin n'en finit donc plus de s'acharner sur cette folle équipée. Or, à peine la berline et le cabriolet sont-ils entrés dans Varennes endormis que le maître de poste Drouet y parvient à son tour. Très imbu de la mission historique dont il se sent investi, il dépasse sans piper le convoi royal et file droit au cabaret du Bras d'Or après l'église afin d'y rameuter les rares noctambules du village. Puis il court réveiller le procureur syndic de la commune, autant dire le maire, un épicier du nom de Sauce, lui aussi bon révolutionnaire, de sorte qu'au moment où la berline et le cabriolet enfin repartis en direction du pont et de la ville basse se présentent à la hauteur d'un porche médiéval, un porche qui rétrécit la chaussée, ils y sont arrêtés par un petit groupe déjà bien excité, armé de piques et de fourches. L'épicier Sauce demande aux voyageurs leur passeport, puis il entre les examiner aux lueurs de l'estaminet. Les faux sont bien faits, les papiers semblent en règle, Sauce serait d'avis de laisser passer les voitures, mais pas Drouet qui insiste. Ces gens sont déguisés, ce sont le roi, la reine, les enfants de France, enfin, voyons. Bien embarrassé, le procureur syndic demande alors aux occupants des deux voitures de le suivre chez lui, à l'épicerie qui se trouve en contrebas vers le pont. On essaie bien de parlementer un peu. Les trois gardes du corps observent le souverain. Ils sont prêts à tirer les armes. Et d'autant plus qu'une poignée de hussards restés en faction tout près de là finissent par s'approcher du petit groupe éclairé de flambeaux. Hélas pour le roi, ces hommes n'ont pas de consignes claires. Et de toute façon, Louis XVI, fidèle à son habitude, veut éviter toute effusion de sang. On entre dans l'épicerie. Les fugitifs ignorent, cela vaut peut-être mieux pour eux, qu'ils sont alors à moins de 100 mètres de l'auberge du grand monarque où attendent leurs chevaux frais. Au son du tocsin, Varenne est tiré de sa torpeur. La population se presse à l'épicerie tandis que les voyageurs suspectés de fuite sont invités à monter dans deux petites pièces au-dessus du magasin. Les enfants épuisés tombent de sommeil. Madame de Tourzel les couche sur le lit des époux Sauce. Au bout d'une heure interminable, l'épicier revient auprès du roi, accompagné d'un certain juge d'Este qui a vécu naguère à Versailles où son beau-père était officier de bouche de la reine. Dès qu'il aperçoit les voyageurs, le juge se fiche de stupeur avant d'esquisser une révérence, plus moyen de jouer la comédie. Se produit alors une scène extraordinaire. Le monarque et son auguste famille, précisera le procès-verbal de la municipalité, daignèrent presser dans leurs bras tous les étrangers qui se trouvaient dans l'appartement et recevoir d'eux la même marque de leur sensibilité vive et familière. Attendri, les larmes aux yeux, Louis XVI explique à ses bons sujets la raison de son départ. Il vient chercher dans ses bonnes provinces la paix et la liberté dont on a fini par le priver dans la capitale. Du dehors monte une sourde rumeur. Par un incroyable hasard, les 40 hussards de Sommevel sous les ordres de Choiseul viennent de déboucher en plein Varenne après s'être longtemps égarés dans la nature. Le jeune duc se précipite chez Sauce et grimpe les marches jusqu'à la petite chambre. Il y sera bientôt rejoint par un officier de dragon qui, alerté par la rumeur, est accouru de Clermont avec une poignée d'hommes. La situation va-t-elle basculer? La famille royale poursuivra-t-elle sa route? Et cette fois sous bonne escorte? Il suffirait d'un mot du roi. Ces soldats, brûlants du désir de racheter leur faute de l'après-midi, se font fort de libérer les fugitifs s'il le faut par la force et de les conduire jusqu'à Dun, où le marquis de Bouillé les prendra sous sa protection. C'est Louis XVI qui va donc décider du sort de son équipée. Le souverain a toujours refusé la violence. Son éducation de prince très chrétien lui a rendu odieuse l'idée de faire couler une goutte du sang de ses sujets civils. Aussi va-t-il choisir d'attendre le matin pour partir tranquillement, avec l'accord de tous. Cette fois, c'en est bien fini de son rêve de se libérer de Paris et de son assemblée, c'en est fait des espoirs ardents de la reine. Chaque heure qui passe représente un peu de terrain perdu, car le voisinage, alerté par le tocsin, a pris d'assaut Varenne. À l'aube, on annonce l'arrivée des messagers de Lafayette et de l'Assemblée. Bayon et l'officier Romeuf, on connaît la suite, les palabres à n'en plus finir, l'énervement de la foule et la phrase de Louis XVI après avoir lu le décret de l'Assemblée. « Il n'y a plus de roi en France ». Le 22 juin, la berline vert et jaune va repartir, mais en sens inverse. Et sous le contrôle haineux de la foule et des soldats venus de Paris. Comment décrire la laideur, l'épouvante même des trois jours de ce retour honteux, piteux vers Paris? Tout au long de la route, le petit peuple crie et crache, insulte et conspue. À Paris, terme de ce chemin de croix, a été placardé au mur cet ordre fameux, je cite, « Quiconque applaudira le roi sera bastonné, quiconque l'injuriera sera pendu. » La fuite de la famille royale, si dramatiquement interrompue à Varennes, s'achève dans un désordre qui en annonce d'autres et de pires. L'attachement des Français à leur monarque de droit divin a vécu, le lien millénaire est rompu pour de bon. De sorte que, dans un peu plus d'un an, la monarchie sera déchue en France.